Frères et sœurs, les amis, en ce deuxième dimanche du carême, nous arrêtons. C'est, j'allais dire, la station presque obligatoire dans tous les évangiles, chaque carême, sur cet épisode de la transfiguration. Alors Jésus apparaît ici en gloire sur une montagne. Beaucoup de choses se passent sur la montagne durant le carême. Cette montagne où il apparaît entre deux des figures les plus emblématiques d'Israël. Moïse le libérateur, celui qui a transmis la loi, et Élie le prophète de l'Horeb. Mais n'oublions pas que quelque temps plus tard, Jésus sera sur une autre montagne, celle du Calvaire, crucifié entre deux brigands. Donc, on peut saisir que la difficulté pour les apôtres, à la fois qui étaient présents à cet épisode, ça a été de reconnaître dans ces deux visages, à la fois celui de la transfiguration qui est un visage de gloire et celui du mont Golgotha qui est un visage totalement défiguré, on peut s'imaginer qu'il est difficile de voir entre ces deux visages l'accomplissement de Dieu le Père. « Qui m'a vu a vu le Père », dira Jésus à Philippe. Mais aussi dans le prologue, saint Jean nous dira « Nous avons vu sa gloire, cette gloire que Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père, et personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. » Alors nous sentons bien que ces deux images, à la fois la gloire et la souffrance, osons le dire, sont malgré tout les deux faces du même amour de Dieu pour chacun, chacune d'entre nous. Comme le dit saint Paul dans la lettre aux Romains, l'amour de Dieu est manifesté ou tout au moins rendu visible en Jésus-Christ, et Jésus lui-même fait le lien entre gloire et souffrance en parlant du Fils de l'homme, sur lequel nous allons maintenant nous arrêter dans cette brève méditation. Mais rassurons-nous, l'évangéliste saint Marc avoue que les apôtres n'ont rien compris. Ils ne comprirent pas cette parole et craignaient de l'interroger. Alors voyez, même les apôtres ont du mal à comprendre, donc nous aussi, ne culpabilisons pas, nous avons aussi du mal à comprendre et il y avait de quoi. Hein, parce qu'il faut se remettre, bien évidemment, dans le contexte. Alors, arrêtons-nous sur cette référence au Fils de l'homme, qui était très certainement énigmatique pour les disciples, à n'en pas douter, comme elle peut l'être pour nous. Au moment de la transfiguration, Jésus ne va pas expliquer ce terme, Fils de l'homme. Au contraire, il va dire jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Et il va recommander seulement aux disciples de ne raconter à personne ce qu'ils ont vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite. Donc, il y a dans cette phrase, dans ce verset, l'allusion, et donc une image de gloire, de la résurrection. Mais cette résurrection, ne l'oublions pas, elle s'inscrit dans les textes entre deux annonces faites par Jésus des souffrances que lui-même devra endurer et que ce Fils de l'homme, puisque c'est l'adage qu'il s'approprie, devra subir. N'oublions pas, première annonce, peu avant la transfiguration, et je cite le texte, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté, etc. Et au chapitre 9, c'est-à-dire peu après la transfiguration, il recommence, il enseignait ses disciples et leur disait « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront et lorsqu'il aura été tué, 3 jours après, il ressuscitera. » Donc nous voyons bien dans ces versets qu'il y a à la fois ce tandem gloire et souffrance, c'est-à-dire souffrance et résurrection. Donc on peut parfaitement saisir que les apôtres en perdaient, j'allais dire, leur latin, si je puis m'exprimer de cette manière-là, et ne comprirent rien du tout. Alors, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, il faut évidemment faire référence au prophète Daniel, puisque c'est dans ce livre que la notion de fils de l'homme va apparaître. Et dans le livre du prophète Daniel, le fils de l'homme était un être à la fois individuel et collectif. Je cite, « Voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme, il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. » Donc il s'agit bien ici, dans ce verset, d'un être individuel. Il participe à la fois du monde des hommes, puisqu'il est le fils d'homme, et du monde de Dieu, puisqu'il vient sur les nuées du ciel. Là, je pense que les choses sont assez claires. Mais tout de suite après, Daniel reprend, et je cite, « Les saints du Très-Haut recevront la royauté, et ils posséderont la royauté pour toujours et à tout jamais. » Ceci est bien évidemment une image, chez le prophète Daniel, de victoire, du Messie, mais pour un sujet collectif cette fois, les saints du Très-Haut. Et donc, Daniel va décrire la souffrance que ceux-ci devront endurer dans une vision de guerre implacable avant que ne leur soit donnée la victoire définitive au chapitre 7 du prophète Daniel, verset 27. Oui, cette simple référence au Fils de l'homme en dit long, puisque Jésus s'attribue cet adjectif, fils de l'homme, si je puis dire, en dit long sur le chemin qui attend Jésus et son peuple. Un même chemin de croix et un même chemin de gloire, ne l'oublions pas. Alors, nous allons peut-être aussi saisir que la nuée dont il est question dans cette transfiguration, survint une nuée qui les couvrit de son ombre. La nuée dans l'Ancien Testament a toujours été à la fois signe et voile de la présence de Dieu. Elle accompagne la venue du Fils de l'homme, désigne en Jésus et ses compagnons. De la nuée, une voix se fit entendre. Bien sûr, cela nous rappelle un texte, à savoir le baptême de Jésus par Jean le Baptiste. Mais au baptême, dans l'évangile de Marc, la voix s'adressait à Jésus. Des cieux vint une voix, « Tu es mon Fils bien-aimé. » Tandis qu'à la transfiguration, la voix s'adresse aux disciples. Il y eut une voix venant de la nuée, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Donc nous voyons bien ici que la notion de Fils de l'homme regroupe le collectif, qui est donc symbolisé par cette nuée qui ne s'adresse plus à une personne en particulier, mais à l'ensemble des acteurs de cette transfiguration, c'est-à-dire bien évidemment le Christ, Jésus, Moïse, Élie et les apôtres qui sont ici. Et cette expression « écoutez-le » va faire écho, bien évidemment, dans le contexte juif, à ce fameux schéma Israël « écoute Israël ». C'est donc un appel à la confiance, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive, même si c'est une confiance qui sera durement éprouvée dans les mois qui vont suivre cet épisode de la transfiguration. Alors, frères et sœurs, nous savons très bien que par notre baptême, nous aussi, nous n'avons pas simplement revêtu le Christ, mais nous avons à le suivre. Et j'allais dire, comme ces disciples qui sont témoins de la transfiguration, nous avons à suivre le Christ autant dans ce qui peut avoir de part de gloire que ce qu'il peut y avoir de part de souffrance. Et cela, à mon avis, synthétise bien la vie de l'homme, de l'être humain que nous sommes, qui est entre souffrance et la gloire qui nous attend. Amen.